présente Ces gestes qui vous trahissent de Joseph Messinger, lu par Michel Hinderix. Lettre A. Les gestes sont la musique du corps. L'accolade. Le président pose sa main gauche sur l'épaule droite d'un homme politique du camp adverse qu'il vient de déboucher proprement en lui proposant une sinécure. Qui est le président? Qui est l'opportuniste qui se rallie à son panache pour ne pas mourir idiot? Quelle importance! Les hommes politiques font partie d'une grande famille dans laquelle on peut trahir ses amis d'hier et se rallier à ceux d'aujourd'hui en attendant de s'en faire des ennemis pour demain. Lors d'une accolade très protocolaire entre deux personnes, l'une des deux pose l'une de ses mains sur l'épaule de l'autre. Cette manière d'accueil, souvent conviviale en apparence, est un héritage de l'adoubement des chevaliers du Moyen-Âge par leur suzerain. Celui qui pose sa main sur l'épaule de son interlocuteur est celui qui détient le pouvoir ou souhaite faire passer ce message à son vassal supposé. Si votre interlocuteur ne détient pas vraiment le pouvoir et vous impose cette accolade, il tente de vous inféoder. La main qui vient se poser sur l'épaule droite est souvent la gauche, chez un droitier. Or, l'épaule droite est le siège de l'ambition. Une main qui s'y cramponne est une façon de limiter l'ambition de celui qui reçoit l'accolade. Quant à la main qui se pose sur l'épaule gauche, elle est un message d'affection ou de reconnaissance à un ami. S'accrocher. Il suffit que je le contrarie pour qu'il accroche ses mains aux accoudoirs de son siège. Comme j'ai remarqué son manège, je m'amuse à le contrarier systématiquement chaque fois que nos points de vue divergent. On s'accroche involontairement à son siège, aux accoudoirs, à ses poignets, à son bon droit, mais pas à ses devoirs. On se raccroche à ses prérogatives, on se suspend à ses avantages sociaux, on se cramponne à la vie quand la mort se présente, etc. L'accrochage est un ancrage du mental en traduction corporelle. S'agenouiller. S'agenouiller représente un acte de soumission, mais procède aussi d'un besoin de transformation ou de recréation, notamment dans un contexte religieux. La génuflexion était et est encore une marque de pseudo-révérence à l'égard d'un personnage de haut rang, au point qu'on fléchit les genoux par déférence envers un interlocuteur sans même s'en rendre compte. Pour la révérence ou l'agenouillement devant les hauts personnages, le fléchissement des genoux est associé à une attitude de soumission, impossibilité de fuir. Mais soyez attentifs. Le fléchissement du genou droit est un acte de soumission frauduleuse et agressive. Celui du genou gauche, un acte de soumission authentique. Les aisselles. Les aisselles sont le siège de l'optimisme et de son ennemi juré, le pessimisme. Et tout cela à cause d'un tic gestuel archi-courant qui consiste à coincer la main sous l'épaule, main droite sous l'épaule gauche, et vice-versa. Quand je fumais, il m'arrivait souvent de griller une cigarette dans le jardin en glissant ma main gauche sous mon aisselle droite. Je trouvais ce geste confortable, mais j'ignorais ce qu'il signifiait. Je broyais du noir, car la vie ne m'apportait pas vraiment les joies que j'en attendais sur le plan professionnel. Je tenais ma cigarette de la main droite. Et puis, les choses se sont arrangées. Mes bouquins ont commencé à se vendre. J'ai touché des droits d'auteur qui ont balayé mes angoisses. Je me suis mis à fumer de la main gauche et à glisser ma main droite sous l'épaule gauche. L'optimiste. Quand la main droite se réfugie régulièrement sous l'épaule gauche, paume plaquée sous l'aisselle gauche. Le geste est rassurant, car la paume entre en contact avec des battements du cœur. L'aisselle gauche est le siège symbolique de l'optimisme. Tant que le cœur bat, tout va. Le pessimiste. La main gauche se réfugie sous l'épaule droite, paume coincée sous l'aisselle droite. Le sujet a le sentiment d'être mal perçu par son entourage. Un sentiment de rejet peut également entraîner la répétition de ce code particulier. Sachez que la course à la reconnaissance est essentielle dans le vécu de l'aisselle droite, pessimiste. Il croise les bras, pouce levé, paume collée sous les aisselles. une bonne façon de se remonter les épaules pour donner l'impression qu'on a de la carrure. Paradoxe. Cette attitude est symptomatique chez l'adulte d'un état de dépression, d'épuisement appelé burn-out. Il s'agit d'une forme particulière de dépression réactionnelle qui survient à la suite d'un surmenage. Une conduite qui apparaît en général chez les individus submergés par des responsabilités qui dépassent leur niveau de compétence. On l'appelle aussi la maladie des managers. Les allumettes. Quel est le rapport entre la manière dont vous craquez une allumette et votre degré de générosité au sens large du terme? Le feu est un archétype dans la mémoire collective de l'humanité. Il est l'équivalent de l'énergie qui anime l'âme, ou la conscience d'être, si vous préférez. Le feu offert à l'autre est une manière de lui transmettre cette énergie. Toute offrande doit d'abord me satisfaire avant d'être donnée à l'autre. Tel est le sens du craquement centripète de l'égocentrique. Celui-ci est évidemment moins solidaire que l'individu allocentrique, ouvert à la société, qui offre son feu centrifuge vers l'extérieur. Juste un petit détail. On peut être égocentrique et généreux, mais on ne peut être égoïste et généreux. Il gratte instinctivement son allumette vers lui, c'est-à-dire de manière centripète. C'est un individu égocentrique. Son mode d'intégration sociale passe par une reconnaissance et un respect de son individualité, une valeur essentielle à ses yeux par l'autre ou le groupe. Il gratte instinctivement son allumette vers l'extérieur. C'est le mode centrifuge de l'allocentrique. Son mode d'intégration passe par une reconnaissance du groupe, de son utilité à la collectivité. Il est évidemment doué d'un esprit d'équipe. Pour l'allocentrique, la liberté, c'est quand il existe dans le cœur des autres. L'amygdale du cerveau. Le neurologue américain Joseph Ledoux a été le premier à mettre en évidence le rôle fondamental de l'amygdale dans l'activité du cerveau. La traduction gestuelle de nos émotions fonctionne selon ses propres règles. Les gestes sont totalement indépendants du néocortex, contenant les aires cérébrales cognitives à gauche et affectives à droite. Confronté à la peur, le corps réagit instinctivement pour se protéger, sans aucune interférence du néocortex. La simple vue d'un serpent, même inoffensif, vous fera faire un bond en arrière, mécanisme de fuite, avant que vous puissiez analyser rationnellement la situation. Ce n'était qu'une couleuvre. Encore une fois, l'amalgame sert de trampoline au raisonnement inductif. Même si certains réflexes dépendent effectivement de l'amygdale, la plupart des gestes que nous reproduisons ne sont pas forcément commandés par cet organe particulier. Au fil de la croissance de l'enfant, les refrains gestuels se mettent en place par imitation, par imprégnation ou parce qu'ils sont codés dans le phénotype. Ils constitueront la trame de la personnalité gestuelle du futur adulte, mais figureront aussi une traduction gestuelle de ces différentes caractéristiques psychologiques. La reproduction des divers refrains gestuels invariables ou alternatifs ne dépend pas essentiellement de l'amygdale, à mon sens, mais de zones corticales diverses et variées qui participent à la production des mouvements corporels. Anatomie. Quelques détails sans importance. Le corps humain se compose d'un squelette de 208 os représentant un poids total de 9 kg environ. Plus de 600 muscles qui le composent représentent un peu moins de 45% de son poids total. Le système sanguin contient de 5 à 7 litres de sang, suivant les individus, actionné par un cœur qui accomplit un effort tout au long d'une vie lui permettant de projeter un poids d'une tonne à une distance de 250 km dans l'espace. Le système nerveux est dominé par un cerveau en comparaison duquel le plus puissant ordinateur au monde est une machine à laver des années 50. Les poumons traitent 15 mètres cubes d'air par jour. Le corps dispose en outre d'un système de refroidissement comportant 2 à 3 millions de glandes sudoripares. Le système d'alimentation dispose d'un canal alimentaire long de 8 mètres qui permet de convertir plus de 50 tonnes de nourriture en l'espace d'une vie. Un individu de 80 kg ingère 625 fois son poids en nourriture. Les reins sont en mesure de filtrer 200 litres de liquide par jour. Reste 1,5 m² de peau pour recouvrir le tout. Et certains ont le culot de prétendre que ce corps complexe reproduit des milliers de codes gestuels qui n'auraient aucune signification. Heureusement que le ridicule ne tue plus.